La renaturation permet de lutter contre les îlots de chaleur. Parce que de l'eau qui coule dans une rivière, avec l'ombrage de la ripisylve, des aulnes, des chênes ou que sais-je encore, c'est réduire la température à hauteur d'homme d'un degré ou d'un demi-degré en période estivale. Et c'est tout à fait important.
Demain, l'espace public est un cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Chaque mois, des architectes, urbanistes, philosophes, artistes, anthropologues viennent échanger sur ce qui se fait déjà et sur ce qu'on pourrait imaginer demain pour rendre nos villes plus vivables, plus vivantes et plus vibrantes. Dans ce podcast, vous allez écouter Alexandre Brun, géographe et urbaniste, maître de conférences à l'Université Paul-Valéry Montpellier-3. La ville résiliente, l'urbanisme littoral, la renaturation des territoires ainsi que le risque inondation sont quelques-uns de ses thèmes de recherche.
Il est fréquent d'utiliser le terme de maltraitance au sujet des fleuves et des rivières, en ville comme dans les campagnes du reste. Finalement, l'histoire commence avec la révolution industrielle, laquelle correspond un peu à la fin des rivières. Non pas que les rivières n'aient pas été utiles à l'époque au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, par exemple. Les rivières avaient un rôle. Mais à partir de la révolution industrielle, par l'implantation des grandes manufactures, le développement du tissu faubourien, l'utilisation massive de la ressource, le fait que sous l'impulsion des hygiénistes d'une part et des ingénieurs d'autre part, les rivières aient été, en particulier les plus fines d'entre elles, les plus petites d'entre elles, aient été littéralement enterrées. Elles se confondent aujourd'hui pour beaucoup avec les égouts. Donc effectivement, la révolution industrielle, c'est le début de la fin de nos petites rivières urbaines. Ça, c'est la première grande séquence. Et puis la deuxième grande séquence, c'est celle des Trente Glorieuses. C'est l'économiste Jean Fourastier qui parle des Trente Glorieuses pour une période allant grosso modo de 1945 à 1975, en réalité 1973-74, puisque c'est la période c'est la fin du plein emploi, c'est le choc pétrolier, alors que la France a beaucoup investi dans des entreprises qui justement vont beaucoup solliciter ces énergies fossiles. Donc finalement, les Trente Glorieuses, c'est une eau très mobilisée par l'usage agricole, parce qu'il faut parvenir à la souveraineté agroalimentaire. Ça passe par la modernisation des exploitations agricoles, c'est-à-dire davantage d'utilisation de produits phytosanitaires, de pesticides. C'est aussi le remembrement qui va favoriser la mécanisation des exploitations agricoles. Donc c'est la fin du bocage, hein, la fin des haies, dont on sait aujourd'hui rétrospectivement qu'elles jouent un rôle important. C'est le drainage des zones humides et puis l'irrigation qui va beaucoup se développer pour produire davantage. D'ailleurs, la politique agricole commune, elle trouve finalement son origine dans la recherche de la productivité agricole. Donc, une souveraineté agroalimentaire, une indépendance énergétique, parce qu'il faut évidemment que les Français puissent avoir accès à l'énergie. Donc, ça va passer par la production hydroélectrique massive qui impacte évidemment les cours d'eau, grands et petits, par exemple en piégeant les sédiments en amont, en empêchant les poissons migrateurs de remonter se reproduire, comme le saumon. Bref, toute une série de faits qui sont au service de la croissance économique, qui sera effectivement très forte durant les Trente Glorieuses, mais qui va impacter les milieux aquatiques. Durant les années 60 et 70, dans les pays anglo-saxons et en particulier dans le nord-est des États-Unis, les villes, en tout cas une partie d'entre elles, les villes industrielles, sont sinistrées. Elles peinent à remonter la pente et elles comprennent de nombreuses friches industrielles et portuaires. Et très rapidement, élus, ingénieurs, urbanistes comprennent qu'il faut développer de grandes opérations de renouvellement urbain. Or, les friches portuaires industrielles, par définition, elles sont au bord des fleuves et des grandes rivières. Et puis aussi des littoraux à la fois maritimes et lacustres. C'est le cas de Chicago, par exemple. Et donc, de Boston à Chicago, il y a un très grand mouvement qui naît, qui consiste finalement à mettre en scène les berges des fleuves, des rivières, des lacs. Et l'une des façons d'y parvenir, c'est d'inviter les acteurs privés, notamment les acteurs commerciaux, alors du commerce stricto sensu et de l'immobilier, du logement et du tertiaire, à construire, ou plutôt à reconstruire des quartiers fluviaux. Et au moment du sommet de Rio, on est en 90-92, il y a un changement de paradigme, il y a une influence anglo-saxonne dans les pays d'Europe occidentale, Dublin, Glasgow, Bilbao, toutes ces villes, et puis en France, Nantes avec l'île de Nantes de Tchemetov, Lyon-Confluence avec Herzog et Demeron, il y a des nouveaux quartiers qui vont naître en lieu et place de friches industrielles ou portuaires. Et finalement, ce qui en fait la caractéristique, c'est le mariage de la ville et de l'eau. La ville qui a été coupée de l'eau par des voies rapides, routières ou autoroutières, par des industries précisément, la ville se tourne à nouveau vers l'eau, mais si elle met l'eau en scène, si elle fait de l'eau du grand paysage, elle ne contribue pas finalement à la restauration des fonctions hydrologiques, biologiques. Donc finalement, l'eau, encore une fois, est utilisée, mais elle n'est pas aidée. On est moins au chevet de l'eau que intéressé par le grand paysage qu'elle représente. La renaturation désigne la restauration des fonctions hydrobiologiques, hydromorphologiques et hydrauliques d'un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est à la fois du liquide et du solide. Alors, si le solide est bétonné ou si le liquide a perdu de la vie à cause de pollution d'origine industrielle, domestique ou agricole, alors il est nécessaire de renaturer le cours d'eau, c'est-à-dire de lui redonner vie. Il y a plusieurs types de renaturation. Par exemple, la Corrèze à Tulle a été renaturée à minima. Grosso modo, il s'agit de diversifier le faciès du limineur, de réduire les pollutions, notamment à l'occasion des épisodes pluvieux. Bref, des initiatives, mais qui sont prises à minima. Dans d'autres cas, comme le Drujon sur le plateau de Frasne, non loin de la Suisse, eh bien là, la renaturation est poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'un cours d'eau qui jadis était méandriforme a été canalisé dans les années 50 et 60 à des fins agricoles et il a été reméandré. C'est-à-dire que le cours d'eau a retrouvé les méandres qu'il avait avant d'avoir été canalisé. Alors, l'objectif n'est pas de rechercher à tout prix un état, à revenir à un état initial environnemental. L'idée, c'est encore une fois de revenir à des fonctions qui sont des fonctions biologiques. En d'autres termes, pour simplifier les choses, une rivière, c'est des poissons, des écrevisses, des larves, etc. C'est aussi de l'eau qui coule. C'est aussi accepter que l'eau coule peu en période estivale et beaucoup plus en période automnale ou en hiver quand il y a des inondations. Donc c'est accepter le rythme hydrologique du cours d'eau et donc c'est tout faire pour que le cours d'eau ait à la fois une réalité biologique, hydrologique, mais aussi hydromorphologique. La morphologie d'un cours d'eau, c'est sa forme, la forme de son limineur, de ses berges. Et ça, finalement, c'est souvent artificiel dans nos villes. La renaturation du Lez, de la Mausson et de leurs affluents à Montpellier répond à plusieurs objectifs. Et des objectifs qui sont cruciaux à la fois pour l'eau, mais aussi plus largement pour le grand territoire. La renaturation permet de lutter contre les îlots de chaleur. Parce que de l'eau qui coule dans une rivière, avec l'ombrage de la ripisylve, des aulnes, des chênes ou que sais-je encore, c'est réduire la température à hauteur d'homme d'un degré ou d'un demi-degré en période estivale. Et c'est tout à fait important. Donc, il y a un aspect lutte contre le changement climatique et c'est une solution fondée sur la nature qui, grosso modo, réclame juste que les pouvoirs locaux prêtent davantage attention à l'eau et il l'intègre dans le plan climat énergie territoire. Et ça donnerait aussi à l'occasion peut-être un peu d'épaisseur à ces plans qui souvent sont, si ce n'est vides, en tout cas correspondent à des trains de mesure qui sont des trains de mesure coercitifs ou bref, on oblige les habitants alors que là on offre des solutions qui sont compréhensibles, intelligibles par les citoyens. La deuxième chose, c'est que la renaturation permet d'optimiser la gestion des eaux pluviales. Or, la problématique de l'inondation pluviale à Montpellier, elle n'est pas nouvelle. Donc, tout ce qui peut être fait à ce niveau mérite d'être fait, si coûteux que cela soit. Mais je suis sûr que des acteurs comme l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la métropole de Montpellier, le PTB du Lez, tous ces acteurs sont évidemment conscients de l'importance de jouer la carte de la renaturation pour optimiser la gestion des inondations, en particulier pluviale. Et puis, il y a aussi un aspect, c'est qu'il n'y a pas seulement le tram qui greffe les quartiers riches et les quartiers pauvres, il y a aussi les cours d'eau. Les cours d'eau sont des traits d'union entre les quartiers parce qu'on peut s'y promener, on peut s'y balader ces continuités paysagères, écologiques, elles ne concernent pas seulement les oiseaux, les libellules ou les batraciens, elles concernent d'abord ceux qui vivent et travaillent à Montpellier et dans les alentours. C'est aussi une façon de raccrocher centre et périphérie. Finalement, raccrocher Saint-Jean-de-Védas au cœur de Montpellier, ben on peut le faire par diverses façons. Le tram, le bus ou plus sûrement la rivière. Historiquement, Montpellier n'a pas été tournée vers la mer, elle était tournée vers la terre, elle était alimentée par la Via Domitia, elle est désormais alimentée par l'Aqua Domitia. Ce que je veux dire par là, c'est que l'eau est un enjeu stratégique à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale. On rentre dans une période de concurrence territoriale importante. Il est inopportun de parler de guerre de l'eau, mais il y a bel et bien une crise de l'eau. Cette crise de l'eau, elle renvoie aux évolutions climatiques, mais le problème aujourd'hui, c'est moins le climat que l'aménagement irrationnel de l'espace. Et donc, la question qui se pose, c'est comment, par des solutions fondées sur la nature, on arrive à créer des solidarités entre l'amont et l'aval, la rive droite, la rive gauche, des communes riches et des communes pauvres. Comment on fait pour que l'eau soit un vecteur de projet et non pas source de tension ?
C'était Alexandre Brun, géographe et urbaniste, invité de Demain, l'espace public, cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Sur le même sujet, nous vous suggérons d'écouter l'entretien que nous avons réalisé avec Mathieu Argaud, directeur artistique de Bipolar. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier Capitale Européenne de la Culture 2028.